La prière, c'est un phénomène universel. D'un côté, c'est presque un instinct inné chez l'homme, cette voix intérieure en nous qui prie, qui s'adresse au ciel si facilement, si promptement. Toutes les religions fonctionnent avec la prière sous une forme ou une autre. Selon une étude que j'ai vue récemment, 30% des athées prient occasionnellement et 17% prient régulièrement. Donc la prière, il y a un côté instinctif, un côté naturel. Mais en même temps, la prière est un défi. La prière est une lutte. La prière n'est pas quelque chose de naturel. On a du mal dès qu'on veut prier. Nos pensées vagabondent. Dès l'instant qu'on veut faire 1000 heures de prière dans l'église, vous allez voir, ça représente quand même un défi. 1000 heures de télé, ça, pas de problème. 1000 heures de Facebook, ça, pas de problème. On n'a pas besoin de se motiver pour ça. Mais 1000 heures de prière, alors que ça représente, toutes les personnes dans cette salle, ça représente 5 minutes par jour. Mais même ces 5 minutes par jour, ça pourrait être un défi pour nombre d'entre nous. Alors nous devons apprendre à prier. Donc il y a un côté naturel, mais il y a un côté aussi difficile, puisque parfois on se dit, c'est quoi la prière? C'est quoi prier un être invisible? Eh bien, dans ces versets que nous allons lire, juste quelques versets, Jésus introduit une nouvelle conception de la prière, où nous avons un vrai accès, une vraie intimité, une vraie écoute auprès de Dieu, qu'on ne trouve dans aucune autre religion. Et j'espère que ces quelques versets puissent nous motiver dans ces 1000 heures que nous voulons vivre ensemble, pas comme un devoir religieux que nous vous imposons, ou pas comme un sujet d'orgueil, mais comme un privilège de pouvoir vivre notre foi avec Dieu, ce Dieu qui nous aime. Alors lisons ces quelques versets, Jean 14, versets 12 à 14. Jésus parle à ses disciples dans la chambre haute. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans ces versets, on trouve le besoin de prier, une motivation à prier et la manière de prier. Voyons ces choses ce matin, le besoin de prier. Donc, on situe ces versets dans le contexte de Jean et de cette soirée où Jésus passe avec ses disciples dans la chambre haute. C'est la dernière nuit qu'il est avec eux avant de dormir. Et au cours de ce repas, il va dire à plusieurs reprises, « Je m'en vais ». Comme dans le verset 12 que nous avons, je m'en vais au Père. Il dit aux disciples, je m'en vais et en même vous pouvez pas venir avec moi. Ils sont assez troublés. Même Pierre dit, mais on va te suivre. Tu vas où? Et Thomas demande, mais tu passes par quel chemin? Les disciples comprennent pas ce discours, ce langage de Jésus qui dit, je m'en vais. Mais nous comprenons ce que voulait dire par ça, et Jésus voulait dire qu'il était sur le point de mourir et d'ensuite ressusciter et d'ensuite retourner vers son Père au ciel. Donc, c'est la dernière nuit qu'il est physiquement présent avec ses disciples, mais à partir de bientôt, il va s'en aller. Au début du chapitre, il dit, je vais m'en aller pour vous préparer une place au ciel, et puis je vais revenir vous prendre avec moi. Mais sachez que je m'en vais. Alors, tous ces échanges, dans la chambre haute notamment, sont pour préparer et pour équiper ses disciples et les générations de disciples futurs à vivre leur foi, à accomplir la mission que Jésus nous a donnée, sans la présence physique de Jésus. Et un outil majeur pour vivre notre foi, le temps que Jésus est au ciel, le temps que nous attendons qu'il revienne nous prendre, c'est la prière. Et donc, Jésus va beaucoup parler de la prière au cours de cette soirée. Il en parle en chapitre 14, comme nous venons de voir. Il va encore en parler en chapitre 15, encore en chapitre 16 et encore en chapitre 17. Donc, la prière est un peu partout dans ces derniers échanges avec ses disciples pour les aider à vivre lorsqu'il sera remonté au ciel. Vous savez, dans bien des films, par exemple, le personnage principal se voit confier une mission. Souvent, c'est une mission inconnue, une mission dangereuse, une mission difficile. Et pour cela, il reçoit une arme, ou bien un outil, ou bien une aptitude dont il aura besoin pour réussir. Peut-être c'est une épée spéciale, peut-être c'est une armure, peut-être un savoir-faire, mais il va pouvoir recevoir ça d'un mentor ou de quelqu'un, et puis il va devoir l'utiliser lui-même quand il se trouve tout seul face au danger ou face à la mission qu'il doit accomplir. Et un peu, c'est ce qui se passe dans la chambre haute avec Jésus. Jésus, il part, mais il est en train de léguer, de donner à ses disciples tout ce qu'il leur faut pour réussir. Alors, par exemple, on a déjà vu ça il y a quelques semaines, il va leur donner un nouveau commandement qui est l'amour fraternel. Et ça va les unir et les garder et pouvoir montrer au monde que Christ est réel et vivant. Nous allons voir d'autres choses dans les semaines à venir. Il va leur donner le Saint-Esprit qui va être très utile pour vivre notre foi. Il va leur donner le secret de la joie. Il va leur donner le secret de la paix. Mais dans ces versets que nous avons lus, il leur donne la possibilité de prier Dieu en son nom pour pouvoir avancer dans leur foi. C'est vrai que je m'en vais, il leur dit, je vais revenir et en attendant, ne soyez pas troublés. Sachez que vous pouvez à tout moment me demander ce qu'il vous faut. Vous pouvez à tout moment demander à Dieu, au Père, et en mon nom, et je le ferai. Alors vous voyez, c'est mieux qu'une épée Jedi, c'est la prière, l'accès à Dieu pour tous nos besoins. Et ça, nous avons besoin de cette relation avec Dieu. Alors c'est vrai que notre Dieu est un Dieu invisible, Jésus n'est pas physiquement présent avec nous, mais par la prière, nous pouvons vivre une relation avec lui. C'est sûr qu'un jour, les chrétiens, nous serons face à face avec Jésus. Il va revenir nous prendre. Nous serons face à face avec lui. La prière n'aura pas le même sens au ciel. On n'aura pas besoin de faire 1000 heures de prière au ciel. On serait avec Dieu. On pourrait parler facilement. Mais en attendant, la prière, nous avons besoin de cette prière pour vivre notre foi, pour entretenir une relation avec ce Dieu qui est au ciel, qui nous a envoyé Jésus, qui est venu accomplir quelque chose, qui est reparti au ciel, mais qui nous écoute. Alors c'est sûr que Dieu connaît déjà tous nos besoins dans la vie chrétienne. Alors pourquoi faut-il prier? C'est pour nous, c'est pour que nous n'oublions pas sa présence et sa bonté dans nos vies. J'aime bien cette pensée, la prière permet à Dieu de nous donner toutes les bonnes choses qu'il veut nous donner, sans faire de nous des enfants gâtés. La prière nous permet à Dieu de nous donner toutes les bonnes choses qu'il veut nous donner, sans faire de nous des enfants gâtés. Parce que lorsque nous demandons des choses à Dieu et que nous les recevons, nous pouvons reconnaître par là que ça vient de lui, nous pouvons le remercier. Alors c'est pour nous, pour notre foi, pour notre relation avec Dieu que nous avons besoin de la prière. Jean Calvin dit ceci, « Dieu ne nous propose rien à espérer de lui sans qu'il ne nous invite à le lui demander en priant. » Notre Dieu est généreux, il est riche, il veut nous donner tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne. Mais il nous invite aussi à le demander pour que nous puissions reconnaître que ça vient de lui et le glorifier quand nous le recevons. Alors pensez à tous les aspects de la vie chrétienne qui passent par la prière. Déjà, devenir chrétien, se convertir, recevoir le salut, c'est par la foi, c'est par la foi en son nom. Nous avons chanté ce nom de Jésus, c'est par la foi en son nom, mais concrètement, ça passe par une prière, je pense. Bien sûr, il y a 1000 façons de l'exprimer, 1000 façons de le dire dans son cœur, mais un jour, vous êtes tourné à Dieu dans une prière, vous avez dit, Seigneur, je n'ai rien en moi-même, je suis coupable, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta grâce, merci de m'avoir donné Jésus qui a payé pour moi à la croix et qui me donne une vie nouvelle, j'accepte ce don, amen. Vous avez dit ça, le salut passe par une prière souvent, où on encourage les chrétiens à vivre, à se repentir, à pratiquer la repentance et obtenir le pardon régulier auprès de Dieu, ça aussi c'est... Vous faites ça en priant. Pensons à nos cultes chrétiens, nos cultes de dimanche. Beaucoup de prières, quasiment tous les cantiques que nous avons chantés jusqu'à là, c'était des prières. Nous avons demandé des choses, nous avons exprimé notre louange à Dieu dans ces prières. La vie d'église, beaucoup de choses passent par la prière. Nous voyons dans le livre des Actes le choix des responsables, le progrès des missions, le pain quotidien que nous pouvons recevoir. Même le retour de Jésus-Christ que toute l'église attend, c'est en quelque sorte une réponse à la prière. Toutes ces choses sont des réponses à la prière. Les responsables que Dieu donne à une église, le progrès de la mission dans le monde entier. Et l'Église, pendant des siècles, a toujours prié, « Seigneur Jésus, viens bientôt !» Et un jour, il va exaucer cette prière. Donc vous voyez, notre foi a besoin de la prière pour s'exprimer, pour reconnaître que Dieu est là. Donc, tout le temps que Jésus est au ciel et que nous devons vivre en attendant son retour, nous aurons besoin de la prière pour entretenir nos relations avec lui et recevoir tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin. Et après, Jésus nous donne une motivation à prier. On va regarder ces versets en particulier. Là, versets 12 et 13, Jésus dit une chose stupéfiante. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Les versets 12 et 13 sont clairement liés. Il dit que le croyant, il va faire des œuvres comme les œuvres qu'il fait, même des plus grandes, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Donc les œuvres que les croyants font seront le fruit de leur prière et des demandes qu'on adresse à Dieu. Versets 12 et 13 sont liés ensemble. Mais c'est là, ça, c'est quand même un mystère, ces versets. Est-ce que j'ai bien lu ? Ma foi et mes prières vont permettre de faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus. C'est quoi ça? Certaines vont dire il s'agit de miracles encore plus spectaculaires qu'a fait Jésus. Mais ça, c'est difficile à admettre cela. Jésus venait de dire, en chapitre 13, verset 16, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, il y a un sens, nous ne serons jamais plus grands que Jésus-Christ. De nombreux miracles que Jésus a fait dans cet évangile, notamment, étaient là pour montrer sa divinité. Alors, Jésus ne peut pas nous inviter, nous, à prendre sa place de Dieu. Ce n'est pas comme si Jésus dit, moi j'ai marché 1 kilomètre sur l'eau, vous allez marcher, vous allez courir 10 kilomètres sur l'eau. Ou moi j'ai nourri une foule de 5 000 avec 5 pains et 2 poissons, vous allez nourrir 50 000 avec 2 chocolatines et 1 sardine. Ce serait un peu ridicule de réfléchir dans ce sens. Et puis l'autre difficulté, si on pense que c'est des miracles, c'est qu'il dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Donc ces œuvres plus grandes, c'est accessible à tout chrétien, tout croyant. Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes. Et pas juste une élite hyper spirituelle qui aurait des soi-disant dons miraculeux, comme certains milieux recherchent. Non, déjà, on peut comprendre ces versets autrement que des miracles plus spectaculaires. Déjà, parce que quand Jean parle des œuvres, tout au long de cet évangile, les œuvres de Jésus, il ne s'agit pas que des miracles. Quand Jean veut parler d'un miracle, il utilise le mot signe. Jésus a fait des signes, et ces signes sont souvent des signes, des œuvres miraculeuses. Mais dans un sens plus général, global, quand Jean parle des œuvres de Jésus, c'est bien plus que ces miracles, c'est tout son ministère, notamment son ministère de faire connaître le Père, de faire connaître Dieu et de faire connaître la parole de Dieu. Donc, si vous regardez dans le verset 10, juste avant les versets que nous avons lus, Jésus dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, Jésus est en train de dire là que les œuvres du Père, c'est aussi ses paroles. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ses paroles, c'est lui qui fait ses œuvres. Donc les œuvres de Jésus, c'est tout le ministère de Jésus et de sa mission de faire connaître Dieu, de faire connaître sa parole. Et puis la vraie clé pour comprendre ses œuvres plus grandes que nous chrétiens, nous allons pouvoir faire, C'est parce que quand il dit en verset 12, le croyant, celui qui croit en moi, fera des œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Nous avons déjà dit que pour Jésus, de s'en aller au Père, c'est tout ce processus de sa mort, sa résurrection et de son ascension. C'est comme ça que Jésus va retourner vers le Père. Et c'est parce qu'il fait ça, parce qu'il meurt à la croix, parce qu'il ressuscite et parce qu'il monte sur le trône de l'univers, que une nouvelle réalité spirituelle est possible pour nous, pour ses croyants, et des choses que nous allons pouvoir faire grâce à sa puissance en nous. C'est-à-dire, depuis la résurrection, depuis que le salut est vraiment acquis, alors là, il y a une autre dimension dans les œuvres et dans la transformation qui peut se faire dans les cœurs. Je l'illustre simplement avec le miracle où Jésus a nourri une foule de 5000 personnes. C'est vrai, c'est un miracle spectaculaire. Ça prouve que Jésus est le Créateur. Il peut, à partir de juste de ses 5 mains, il peut nourrir toute une foule. Mais dans un sens, c'était juste un repas qui a rempli le ventre de ces personnes. Et qui, si on s'arrête là, ne change strictement rien à la situation éternelle et spirituelle des personnes. Donc c'était un grand miracle, nourrir 5000. Mais dans un autre sens, ça ne fait que remplir le ventre. Et c'est surtout la croix et la résurrection. Et puis le message que nous allons pouvoir nous prêcher, dont nous allons pouvoir témoigner, qui va vraiment changer l'éternité des personnes. Donc c'est dans ce sens-là que nos œuvres peuvent être plus grandes. Parce que maintenant, le salut est acquis et nous pouvons vivre ce salut. Nous pouvons partager ce salut et nous pouvons demander à Dieu que ce salut, cet évangile, progresse dans le monde. Et c'est ça le cœur de nos prières. Nous demandons à Dieu de glorifier son nom par Jésus-Christ, par son salut, et nous partageons ce salut. Et du coup, des œuvres plus grandes, dans un sens plus grand, s'opèrent que même ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait avant la croix et la résurrection. Et ça nous donne une grande motivation à prier, non? Ma foi, mes prières, mon témoignage, grâce à l'œuvre accomplie de Jésus, peut porter du fruit éternel dans la vie des personnes. Alors, quelques exemples. Vous priez pour un enfant, vous priez pour un collègue, et vous lui témoignez de l'Évangile. Et cette personne fait la paix avec Dieu. Ça, c'est une grande œuvre. Ou vous demandez à Dieu de vous aider à pardonner à quelqu'un, parce que vous avez été pardonné à la croix. Ou bien vous priez que Dieu vous donne de tenir bon dans une épreuve grâce à l'espérance de la résurrection. Ou vous priez pour un missionnaire, que Dieu l'aide à annoncer clairement l'évangile. Dans ce sens, toutes ces œuvres-là, et la manière que Dieu va répondre à ces prières, ces œuvres-là sont plus grandes, plus profondes que tout ce qui a pu se faire avant la croix. Donc vous avez la possibilité de faire de grandes œuvres, comme Jésus dit, parce qu'il est victorieux à la croix et à la résurrection. Et ça c'est nos prières. C'est par la prière que ces œuvres vont se faire. Alors cela nous donne une grande motivation. Nous pouvons demander des choses à Dieu qui vont porter du fruit éternel, qui vont servir à accomplir sa mission, qui vont donner la croissance à son Église et qui va porter gloire à son nom. Voilà une motivation pour prier que Jésus nous donne, que vous allez faire les œuvres plus grandes même que moi. Et enfin, on termine avec la manière de prier dans ces versets qui peuvent nous aider à comprendre la prière. Jésus dit, pour prier, il faut prier en son nom. Il dit ça à plusieurs reprises, en verset 13 et verset 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et encore verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom. » Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une abracadabra, « Sésame, ouvre-toi » au nom de Jésus, que nous attachons à la fin de nos prières. Nous avons vu dans les lectures, avant dans le culte, que même on peut abuser, ce n'est pas une formule magique, et ce n'a rien avec les rites superstitieux ou magiques que pratiquent certains. Et il y avait ces personnes qui ont essayé de faire des trucs au nom de Jésus, et ils ont été complètement tabassés par l'esprit malin. Donc, simplement citer le nom de Jésus, ou le suffixer à nos prières comme une formule magique, ce n'est pas comprendre ce que c'est que de prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est beaucoup plus que ça, c'est tout le sens que nous cherchons à comprendre. Mais cette prière au nom de Jésus, c'est ça qui va distinguer la prière chrétienne de toutes les autres prières qu'on trouve dans les autres religions et qui va donner une vraie efficacité à nos prières par rapport à tout le reste. Alors c'est quoi prier au nom de Jésus? Eh bien, tout d'abord, c'est prier sur les bases de ses mérites à lui et non pas les nôtres. Nous avons rappelé ce matin par tous nos chants que le nom de Jésus, pour nous les chrétiens, représente toute sa personne, toute son œuvre. Et nous savons en tant que chrétiens que c'est la seule manière, Jésus est la seule manière de s'approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas, nous approcher de Dieu en notre nom personnel. Mais nous nous approchons de Dieu au nom de Jésus, par ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous ne sommes pas qualifiés. Nous ne sommes pas autorisés, nous, à débarquer comme ça dans la présence de Dieu. Jésus l'est, il est parfait, il est le Fils de Dieu, il peut le faire. Nous, non. Donc nous passons par Jésus. Quand j'étais petit, notre famille habitait à Paris. J'étais dans une école internationale pendant un temps. Et j'avais un copain de classe, c'était le fils de l'ambassadeur japonais. L'ambassadeur de Japon habitait pas loin. Et donc, j'étais copain avec le fils de l'ambassadeur du Japon. Alors, j'allais chez lui, j'allais chez eux. Ils avaient un appartement. Et j'allais chez lui pour les anniversaires. On jouait ensemble, tout ça. Donc, j'ignorais complètement que je débarquais chez l'ambassadeur de Japon à Paris. Aujourd'hui, si je veux aller à l'ambassade, n'importe quelle ambassade, japonais ou toute autre ambassade, là, il y a tout un protocole. Il va passer par des fouilles, il y a l'administration, il faut faire la demande, c'est pas sûr que je reçois une audience. C'est difficile. Allez, si vous devez faire les paparazzes aux ambassades de plus en plus de nos jours, c'est pas évident. Et ça, c'est toutes les religions. Toutes les religions, toute la prière des religions fonctionne comme ça, avec ce protocole, cette difficulté d'accès. Parce qu'au fond, nous sommes tous au courant, nous sommes tous conscients qu'il y a un énorme fossé entre Dieu, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, et puis nous, l'homme. Alors, pendant les hommes, les différentes cultures, les différentes sociétés, on essayait de combler ce fossé, notamment avec des temples ou des lieux de prière, avec des rites qui accompagnent les prières, pour essayer de combler cette fossé que l'on sait existe entre Dieu et l'homme. Alors on va mettre en place tous ces protocoles. Comment on peut trouver à l'ambassade pour avancer avec précaution, avec prudence vers un Dieu qui pourrait ne pas être content avec nous. Alors dans beaucoup de religions, on met de l'accent sur justement toutes ces rites, peut-être c'est la posture à adopter dans la prière, ou certaines formules à réciter dans la prière, ou des sacrifices qu'il faut faire accompagner, ou qu'il faut joindre aux prières. Alors souvent, s'il y a le besoin des prêtres, c'est eux qui peuvent prier, mais les autres doivent passer par eux. C'est Aristote, le philosophe grec. Aristote disait qu'on pouvait éventuellement vénérer et apaiser les dieux, mais une amitié intime serait impossible. Une vraie amitié, une conversation, un dialogue, ce serait impossible. Parce qu'il faudrait qu'on soit sur le même pied d'égalité, c'est ça les amis. C'est ça, parler avec un ami, on est sur le même pied d'égalité, et ça c'est impossible entre les dieux et l'homme. Mais Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, et dans cette soirée même, il va par la suite être arrêté et puis crucifié. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour se mettre sur le même pied d'égalité avec nous. Il est devenu un serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples et encore plus, il s'est mis sur une croix. Il est mort à notre place pour nous pardonner. Et nous pouvons tranquillement maintenant voir le Père. Nous pouvons tranquillement entrer chez le Père à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Comme moi, je pouvais facilement aller chez l'ambassadeur. Nous pouvons facilement aller dans la présence de Dieu à cause de son Fils, à cause de son Fils Jésus. Il est notre chemin. C'est ce que rappelle encore tout ce chapitre. Jésus est notre chemin pour aller à Dieu. Et ça, cette réalité-là, ça change tout pour la prière. Ça donne une nouvelle dimension, une nouvelle conception de la prière. Fini tous ces rites, tous ces lieux particuliers, toutes ces postures à adopter. La prière au nom de Jésus, c'est cet accès libre où nous pouvons demander des choses comme ses enfants. Ça, nous savons, beaucoup d'entre nous, et nous le reflétons souvent à la fin de nos prières, nous disant au nom de Jésus, Amen. Et c'est certainement une bonne chose de nous rappeler régulièrement que nous prions au nom de Jésus. Attention à une formule magique ou une rite qui n'a pas de sens, mais nous nous rappelons, et c'est bien de se rappeler dans nos prières, que nous venons par Jésus-Christ. Mais parfois, même si nous disons souvent au nom de Jésus-Christ, nous oublions, je pense, que c'est vraiment sur la base de ses mérites, de son œuvre, que nous pouvons demander des choses à Dieu. Un prédicateur raconte cette histoire, je vais vous le lire, il est tiré du livre sur la prière de Tim Keller. Donc un prédicateur se trouvait en Australie à prêcher, et un jour, alors qu'il se trouve sur l'estrade prêt à prêcher, il reçoit une note anonyme lui demandant d'aborder la question des prières non exaucées. En ces termes, « Cher monsieur, je suis très perplexe. Je prie depuis longtemps pour quelque chose qui, j'en suis certain, est en accord avec la volonté de Dieu, mais je n'ai aucune réponse. Je fais partie de l'Église baptiste depuis 30 ans, en m'efforçant de vivre en accord avec mon choix. J'ai dirigé l'école du dimanche pendant 25 ans et je remplis le rôle d'ancien depuis 20 ans. Malgré cela, Dieu ne répond pas à ma prière et je ne comprends pas pourquoi. Pourriez-vous m'éclairer ? Comprenant le sous-entendu du message, le prédicateur se jette à l'eau. Il s'avance, lit la note et s'en sert pour expliquer une vérité incontournable. Pour lui, le problème est évident. Cet homme pense que tout ce qu'il a accompli en tant que membre de son Église, en tant qu'ancien, met Dieu dans l'obligation de répondre à sa requête. En réalité, il prie en son nom propre. Il ne fait aucun doute que cet homme ajoutait consciencieusement au nom de Jésus à la fin de chacune de ses prières. Mais cette formule n'était qu'une façon de s'attirer la faveur de Dieu en respectant scrupuleusement toutes les règles. Alors le prédicateur poursuit, il faut abandonner toute idée de droit sur Dieu. Mais Jésus-Christ a infiniment de droits et il faut prier Dieu en s'appuyant sur si et non sur notre bonté personnelle. À la fin de la réunion, l'homme s'approche du prédicateur et lui avoue, vous avez mis en plein dans le mille. Donc il a compris que malgré le fait qu'il disait au nom de Jésus, quelque part dans son âme et son conscience, il présentait ses propres mérites, ses propres œuvres pour recevoir ses requêtes. Et ça, c'est contraire à la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, Dieu n'est pas à nos commandes lorsque nous prions, même au nom de Jésus-Christ. Je termine juste avec une dernière illustration pour nous encourager à prier en son nom, au nom de Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier sur la base de ses mérites. C'est aussi prier des choses que lui demanderait, que lui pourrait approuver. C'est ça, prier en son nom. Parfois, pour les affaires de notre foyer, on doit écrire une lettre à l'administration ou à la banque ou à l'assurance. Et souvent, c'est mon épouse qui rédige la lettre et qui me le présente pour que je signe. Parce que c'est mon nom sur le compte ou parce que voilà, c'est... Et prier au nom de Jésus, c'est un peu ça. C'est nous formulons la requête et puis nous demandons à Jésus de signer parce que c'est son nom qui va compter. C'est son nom qui va apporter l'exaucement. Alors, voici la question. Est-ce que Jésus peut signer votre prière? Est-ce que Jésus peut signer vos requêtes? Est-ce qu'ici, si je lis la lettre, je suis d'accord quand je signe. Est-ce que Jésus peut partager votre sujet de prière? Est-ce que c'est pour la gloire de son Père? Est-ce que c'est pour le progrès de la mission? Ou est-ce que c'est juste un besoin personnel, parfois égoïste? Et la réalité, c'est souvent nous ne demandons pas exactement, précisément, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors demander au nom de Jésus, on a cette protection, cette garantie, que oui, il va le faire, et demander au nom de Jésus, c'est aussi demander des choses qui lui demanderait. Et on peut faire confiance à son nom, à son caractère, pour décider ce qui est mieux pour nous. Et c'est pour ça que tous ces cantiques que nous avons chantés ce matin, ça nous aide aussi dans la prière. Ce nom glorieux, ce nom puissant, ce nom beau, c'est ce nom que nous voulons être connus dans ce monde. Alors, nous pouvons traverser des circonstances, Mais la prière, c'est glorifie ton nom dans ma vie, glorifie ton nom dans cette épreuve, glorifie ton nom dans ce que je vis. Et c'est pour ça que je te fais cette requête, je le fais au nom de Jésus-Christ. Que cela puisse nous aider et nous inspirer dans dans notre vie de prière à chacun. Tous ici, à tout moment, vous pouvez vous tourner vers Dieu et lui demander le secours, le salut, le soutien, la gloire de son nom et être sûr qu'il entende et qu'il va exaucer. Nous allons terminer justement dans la prière.